VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, le président Joseph Kabila procède depuis lundi soir à des consultations directes avec les signataires de l'accord du 31 décembre, dont les négociations sur l'arrangement particulier ont échoué la semaine dernière. Les pourparlers ont achoppé sur la désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Trois des quatre délégations prévues dans le programme ont été reçues par Joseph Kabila. La première, la société civile signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, recommande un consensus autour de la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre dernier. Ensuite, l'opposition républicaine de Léon Kengouadon doit échanger avec le chef de l'État. Mais au sortir de l'audience, le président du Sénat s'est refusé à tout commentaire. Le troisième groupe à être reçu fut l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, conduite par Vital Kamerhe. Le président de l'UNC a rappelé la nécessité d'appliquer l'accord du 31 décembre pour sortir le pays de la crise actuelle, tout en soulignant que l'opposition qu'il conduit est candidate à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, poste que devait occuper le défunt Étienne Tshisekedi et qui, dans l'accord, revient au président du Conseil des sages du Rassemblement. Brillé par son absence, la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre est proche du Rassemblement qui dit n'avoir pas reçu d'invitation. Faux, rétorque le protocole d'État approché par Top Congo FM pour qui des invitations étaient envoyées à tout le monde au même moment. Ce mardi, Joseph Kabila échange avec toutes les plateformes signataires de l'accord du 31 décembre, notamment le Rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution que devait conduire la secrétaire générale Eve Bazaïba et la majorité présidentielle. C'est seulement après ces échanges que Joseph Kabila va s'adresser comme promis à la nation à travers le Parlement réuni en congrès. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville voisin, il y a exactement un an, le 4 avril 2016, les quartiers de Bas-Congo et de Makelele ont été traumatisés par une longue nuit de tirs nourris d'armes à feu, alors que les populations attendaient les résultats de l'élection présidentielle. Ces violences se sont poursuivies par la suite dans la région du Poul, entre les éléments de la force publique et les ninjas du pasteur Ntoumi. Un an après, les civils continuent de fuir le Poul et les acteurs politiques restent divisés sur le règlement de la crise. De Brazzaville, le point avec notre correspondant Nguela Ngusu.
Au lendemain de ces violents incidents, les autorités avaient désigné l'instigateur, le pasteur Ntoumi, le chef de la milice ninja. Une année après, le discours du ministre de la Justice, Pierre Mabiala, n'a pas changé.
C'est Ntoumi qui a provoqué cette situation. Et toutes nos sœurs, tous nos frères du Poul, épris de paix, sont en difficulté aujourd'hui. Situation de déplacés. Entassés à Kinkala, d'autres ici à Brazzaville, d'autres isolés dans des hameaux.
Membre de la majorité présidentielle, Didier Clotaire-Boutindi a constaté que les stigmates de ce triste 4 avril sont toujours sur les bâtiments publics de Bas-Congo et Makelele, incendiés ce jour-là. Pressenti candidat aux prochaines législatives à Gomatété dans le Poul, Didier Boutindi appelle le pasteur Ntoumi à sortir des bois et à venir dire sa part de vérité devant la justice.
Ce que les nids ont brûlé, c'est pas conçu, allez voir. Hein, les PSP sont là, brûlés, tout ça là. C'est pas construit. Donc il faut que mes frères du Poul comprennent qu'on ne détruit pas ce qu'on a construit. Si M. Ntoumi ne se reproche de rien, s'il se dit qu'il est innocent de ce qui se passe dans le Poul, donc il n'a qu'à venir à la justice. Il n'a qu'à demander la couverture des hommes d'église, la compagnie ou bien la Croix-Rouge. Mais le fait qu'il ne veut pas venir, le fait qu'il s'oppose à la force publique, cela signifie qu'il se reproche de quelque chose.
L'opposant Paul-Marie Pouélé avait, il y a une année, tenté un rapprochement entre la force publique et les ninjas. Aujourd'hui, il en tire les leçons.
Que le gouvernement comprenne que le pasteur Ntoumi donne sa version des faits et si cela ne se fait pas, le gouvernement n'arrive pas non plus militairement à terminer cette situation. Vous voyez que nous sommes en train d'approcher les élections. Comment ça va se passer dans le Poul? On ne leur demande pas de faire des négociations comme en 99. On leur demande simplement de pouvoir accorder au pasteur Ntoumi la possibilité de venir s'expliquer. Et chacun dans l'opinion se fera une idée de ce qui s'est passé réellement le 4 avril.
Dans le Poul, les villages continuent de se vider. Les populations arrivent toujours à Brazzaville. Gaspard Mianantima et son association, les Récences, en vue d'une éventuelle aide humanitaire.
Un nombre qui va environner 1000 ou peut-être 2000, hein. Ça c'est sûr, au rythme où nous recevons les gens. Effectivement, notre étonnement est grand. Pourquoi le gouvernement a pris tout son temps là à observer le silence autour de lui des gens qui crient? Et c'est une sanction, une persécution. Qu'est-ce qui ne va pas alors que la population avait exercé son droit de vote?
Une année après ces violences du 4 avril, les militaires et les policiers poursuivent leur chasse contre Ntoumi et ses hommes, les autorités ayant refusé toute négociation avec celui qu'elles qualifient de terroriste. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Afrique du Sud, le grand coup de balai au sein du gouvernement fait des remous dans l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, qui est de plus en plus divisé. L'opposition cherche à s'engouffrer dans la brèche pour déposer une énième motion de censure contre le président Jacob Zuma. Abdourahmane Dia.
C'est une levée de bouclier. La commission d'intégrité de l'ANC s'est dite profondément perturbée par l'absence de consultation. Le vice-président Cyril Ramaphosa a qualifié d'inacceptable le limogeage de Pravin Gordhan, le très respecté ministre des Finances. Moussi Maïmane, le leader de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a appelé aux côtés de quatre autres formations, dont les combattants pour la liberté économique de Julius Malema, à l'organisation d'un vote de défiance au Parlement pour faire partir Jacob Zuma. La présidente du Parlement, Malika Mbete, rentrée en toute hâte du Bangladesh. L'ANC dispose d'une confortable majorité avec 249 sièges sur les 400 au Parlement. M. Zuma a déjà survécu à plusieurs motions de défiance, mais les divisions de sa majorité pourraient rebattre les cartes. Au plan économique, l'agence Standard & Poor's a dégradé hier la note de la première économie du continent. Le rand sud-africain, depuis vendredi, a perdu beaucoup de sa valeur face au billet vert.
Actualité américaine maintenant, réchauffement dans les relations entre l'Égypte et les États-Unis. Le président Donald Trump a promis à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qu'il recevait lundi à la Maison Blanche, de mener ensemble la lutte contre les islamistes armés. « Je veux que chacun sache, s'il y avait le moindre doute, que nous sommes totalement derrière le président Sisi », a déclaré Donald Trump lors de leur rencontre dans le bureau Oval. Les deux leaders souhaitent donner un nouvel élan aux relations bilatérales. Sébastien Gorka, un conseiller du président Trump, explique.
I'm not going to comment on concrete figures. I'm not a spokesman for the president or for the National Security Council.
Je ne veux pas commenter sur les chiffres concrets. Je ne suis pas un porte-parole du président ou du Conseil de sécurité nationale, mais nous savons que l'aide doit être beaucoup plus rationnellement programmée qu'elle ne l'a été au cours des 8 dernières années. L'administration Obama a causé de grands désagréments au gouvernement du président Sisi, qui faisait face à une menace croissante. Donc, je ne veux pas parler de montants en dollars, mais je peux vous garantir que notre relation avec le Caire sera beaucoup plus forte que pendant les années d'Obama.
Sébastien Gorka, conseiller du président américain Donald Trump. Attentat de lundi à Saint-Pétersbourg en Russie. L'attaque dans le métro de la deuxième ville du pays a été perpétrée par un kamikaze et la vigilance d'un employé a permis de déjouer une seconde attaque, déclarent les enquêteurs russes. Au total, 14 personnes ont péri dans l'explosion et 49 ont été blessées à Saint-Pétersbourg, qui est en deuil pour 3 jours. Les services secrets du Kyrgyzstan, ex-république soviétique d'Asie centrale, ont annoncé que l'attentat avait été commis par un certain Akbar John Jalilov, un homme né en 1995 dans la région kirghize d'Osh. Mais l'information n'est pas confirmée par les autorités russes et personne n'a officiellement revendiqué l'attaque. Il s'agit d'un défi lancé à tous les Russes, y compris le président Vladimir Poutine, a déclaré ce mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le chef de l'État russe était dans la région de Saint-Pétersbourg hier pendant l'attentat. Jean-Roger Bion.
Le président Vladimir Poutine est allé dans la soirée déposer un bouquet de fleurs rouges devant la station où s'est immobilisé le train visé. Il avait auparavant dirigé une réunion avec des représentants des services de renseignement, du FSB, des sécuristes et du ministère de l'Intérieur. On rappelle que l'organisation État islamique avait appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie fin septembre 2015. L'enquête a été ouverte pour acte terroriste, a indiqué le comité d'enquête russe dans un communiqué précisant que toutes les autres pistes seraient examinées.
Et pour terminer, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a invité ce mardi l'Allemagne à tenir son engagement d'une hausse de ses dépenses militaires à hauteur de 2%, alors que le sujet agite la coalition gouvernementale d'Angela Merkel. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.